J'espère que par la parole de Dieu, encore ce matin, vous allez pouvoir aussi être encouragés et être édifiés. J'aimerais ça qu'on puisse prier ce matin avant de poursuivre. Alors Seigneur Jésus, merci, merci de ta grâce, merci de tes soins particuliers. Merci d'être le grand et le bon berger. Et Seigneur, nous venons à toi ce matin parce que nous voulons regarder à toi. Septembre est souvent le début d'une nouvelle année, dans le sens scolaire et plein d'autres choses, après les vacances d'été. Alors Seigneur, on veut te demander d'être avec chacun d'entre nous, de nous rencontrer. Seigneur, la vie est trépidante, beaucoup de choses sont à gérer, beaucoup de décisions sont à prendre. Et en plus de les tracas et des épreuves et des choses qui ne vont pas comme on voudrait ou on pense que ça devrait aller. Et Seigneur, sans toi, que ferions-nous? Et on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de trouver ces moments où on peut te rencontrer seul à seul, où tu peux prendre soin de nous, parler à nos cœurs, parce qu'on a tellement besoin de toi, Jésus. Tu es la vie, et nos cœurs ont besoin de cette vie. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin aussi pour justement tous ceux qui, à cause de la rentrée scolaire, tous les parents qui ont des responsabilités supplémentaires avec la rentrée scolaire. Seigneur Jésus, mets ta bonne main sur chacun d'eux. Sois avec eux. Encourage-les, Seigneur. Aide-les à se confier en toi, à remettre chacun de leurs enfants entre tes mains et qu'ils puissent être, avoir cette assurance dans leur cœur que tu es avec eux dans cette tâche importante et qui est de plus en plus complexe dans le monde dans lequel nous sommes. Bénis-les grandement, Seigneur Jésus. Bénis-nous chacun de nous ce matin dans la lecture de ta parole, dans ce que tu as à nous montrer ce matin et surtout conduis-nous à toi, Seigneur, que nos cœurs puissent recevoir de toi ce que nos cœurs ont besoin ce matin. En Jésus, je te le demande. Amen. Ce matin, vous avez vu dans le bulletin, il n'y a pas de titre de message parce que je ne savais pas comment l'appeler, mais finalement, c'est très simple. C'est ceci, c'est « Réponse aux questions sur les dons spirituels ». Alors, vous savez, on a terminé en juillet, le dernier message que j'ai apporté en juillet. On a terminé avec le chapitre 14. On avait fait toute la section du chapitre 12, 13 et 14 qui traitait des dons spirituels. Et en début de série, de cette série-là, spécialement sur 12, 13, 14, parce qu'on a fait tous les chapitres précédents aussi, mais sur le début de 12, 13, 14, j'avais demandé, est-ce que vous avez des questions sur les dons spirituels? Parce que, justement, c'est ce que Paul s'apprête à faire à l'épître aux Corinthiens. Donc, Paul répondait aux questions des Corinthiens. Et là, vous avez posé 8 questions. Et puis, ensuite, on a poursuivi dans la série. Je pense que ceux qui avaient posé des questions ou ceux qui en avaient des questions qui n'ont pas été posées, il y a sûrement des questions qui ont été répondues et peut-être que d'autres ne l'ont pas été. Alors, ce matin, ce que je vais faire, parce qu'il nous reste aussi le chapitre 15 et 16 que je vais poursuivre dans la suite. Et ensuite, on va changer de thème, on va changer de livre un peu plus tard. Mais pour ce matin, j'aimerais ça répondre à ces 8 questions. Et je sais qu'en répondant aux 8 questions, je vais susciter d'autres questions. Mais c'est correct. Je suis certain que quand Paul a répondu aux questions des Corinthiens, il a suscité d'autres questions. Et c'est pour ça qu'il a écrit 2 Corinthiens. Alors, faut pas s'en faire avec ça. Fait que moi, je disais à mon épouse en joke cette semaine, je dis, je suis en train d'écrire la première épître de Benoît au Trifluvien, en répondant aux questions de la salle. Alors, Gilles Gauthier, notre cher frère qui s'occupe de notre site web, alors lui, il est allé répertorier toutes les questions pour moi, il est très gentil. Et puis, donc, ce matin, je me lance et je vais répondre aux questions qui ont été posées. La première question, c'est la suivante. Comment différencier dons spirituels et talents naturels? Ça, c'est une question très simple. Il y a des questions un petit peu plus difficiles plus tard, mais c'est la première question qui a été posée. Alors, j'y réponds dans l'ordre aussi qui ont été posées. Donc, j'ai pas de préjugés par rapport aux questions, pas du tout. Mais quand même, c'est quand même simple dans le sens que un don spirituel, comme le terme le dit, c'est une capacité spirituelle qui est accordée par le Saint-Esprit Et ça, c'est accordé au moment de la nouvelle naissance, c'est-à-dire au moment où une personne passe de la mort à la vie, au moment où une personne se tourne de ses péchés et vient à Jésus, le reçoit comme sauveur personnel. Et là, il est né d'en haut, nous dit l'apôtre Jean. Donc, il est né de l'Esprit aussi, qui est une autre expression, pour parler de cette nouvelle naissance, qui est une naissance autre que la naissance humaine. Donc, il faut absolument être né de nouveau pour avoir un don spirituel. Maintenant, un don spirituel aussi peut être donné plus tard. Donc, pas seulement au moment de la conversion, au moment où je passe à cette nouvelle naissance-là, mais ça peut être attribué plus tard, comme on le voit dans la vie de Timothée, par exemple, où il avait reçu un don par l'imposition des anciens au moment où il a été mis à part pour l'œuvre du ministère. Il avait reçu à ce moment-là, selon Paul, même par prophétie, un don spirituel pour accomplir sa tâche. Donc ça, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Maintenant, à chaque fois qu'un don spirituel est donné, il est donné pour l'utilité commune de l'Église. Donc ça, c'est spécifié dans 1 Corinthiens 12. Il est donné aussi pour créer l'unité dans la diversité. Donc, il y a une diversité de dons, mais chacun des dons vont simplement converger vers cette unité. Autrement dit, les dons divers qui ont été donnés, c'est pour pourvoir aux besoins de chacune église et de faire qu'elle puisse grandir dans l'unité. Et aussi, de favoriser une culture aimante dans l'église locale. Une culture de compassion. Une culture où on prend soin les uns des autres. Où personne est laissé de côté. Et une culture qui nous emmène dans une célébration joyeuse autour de la personne de Jésus. Donc ça, c'est les dons spirituels. Ils ne sont pas pour nous, ils ne sont pas pour notre bien personnel, mais en même temps, on comprend qu'on est bénéficiaire d'un cadeau de Dieu. Et donc, on n'est pas laissé pour compte. Mais le but premier, autrement dit, ce n'est pas pour mon édification personnelle. C'est pour mes frères et sœurs. C'est pour ceux qui sont autour de moi. Et même ceux qui ne sont même pas encore mes frères et sœurs, qui, à travers ce que Dieu fait dans ma vie, mettons, si j'aurais le don d'évangélisation ou le don de parole, ben, je peux aussi partager facilement ma foi avec ceux qui sont autour de moi et ils peuvent... Par la grâce de Dieu, certains vont venir à Jésus. Alors, il y avait 1 Corinthiens 12, 12 et 1 Corinthiens 12, 24-25 qui expriment justement ce que je viens de vous dire. Maintenant, un talent naturel, c'est tout simplement quoi? C'est une capacité humaine qui est aussi accordée par Dieu. Hein? Alors, même si quelqu'un n'est pas né de Dieu, n'est pas né de nouveau, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, alors Dieu donne des talents à diverses personnes. Et parfois, un talent va être utilisé dans la main de Dieu pour qu'un don spirituel puisse s'exprimer à travers le talent naturel d'une personne. Je vais donner un exemple et je ne suis pas en train de donner une jambette à mon frère Joël. Je suis juste en train de dire ceci. Joël n'a pas un talent musical. On a parlé vendredi, là. Il n'y a pas un talent musical, puis c'est même Julie qui a dit ça, là. Excuse-moi, Julie, de te mettre sur le spot de même, là. Mais je disais vraiment ça pour donner une jambette, puis écoute, moi et Joël, on s'aime beaucoup, tout ça. Alors, mais moi, ce que j'apprécie, c'est que je vois... Les dons spirituels s'exprimer à travers Joël lorsqu'il fait la louange, même s'il n'a pas de talent musical. Quelqu'un pourrait avoir un talent musical épouvantable, époustouflant, et que malheureusement, l'aspect de la vie spirituelle n'est pas en train de s'exprimer à travers ce talent. On ne serait pas béni comme on est béni à travers un Joël qui n'a pas de talent musical. Mais il a un cœur pour Dieu et il a des dons spirituels qui s'expriment à travers un service, un ministère, une œuvre. Et en plus, il a la grâce d'avoir Julie avec lui, qui, elle a un talent musical. Comprenez? Donc là, ils font une belle équipe ensemble. Et qui est bénéficiaire de ça? C'est nous le peuple de Dieu. C'est sûr qu'eux sont édifiés là, mais nous particulièrement, c'est nous qui sommes édifiés. Alors, un talent naturel, je n'ai pas besoin d'être né de Dieu, mais c'est quand même Dieu qui me l'a accordé. Et c'est aussi parfois à travers l'héritage familial qu'on reçoit des talents. Et certains, mettons, qui sont nés dans des familles musicales, justement, eh bien, c'est assez fréquent de voir d'autres dans la famille qui ont de tels talents musicaux qui sont quand même exceptionnels, ou on voit qu'on dit il y a vraiment un talent. C'est comme, wow, tu sais, il y a quelque chose là qui s'exprime à travers. Puis là, il y a naturellement musical, mais il y a plein d'autres talents aussi qui peuvent se manifester. Et ça, on trouve ça, dans le fond, dans le mandat de la création, dans Genèse 1, 27, 28, où ça dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le mandat de la création, que Dieu a donné à toute la création. Donc, tous les hommes, toutes les femmes sont créés à l'image de Dieu et, dans un sens, ont reçu ce mandat-là. Et donc, des talents pour accomplir aussi le mandat que Dieu leur avait donné. Alors, vous voyez la différence entre don spirituel et talent naturel. Donc, talent naturel, si je suis né de nouveau, j'en ai, c'est sûr. Et là, ce qui serait fantastique, c'est que les dons spirituels, la vie de l'Esprit en moi, puissent s'exprimer à travers mes talents naturels. Et là, il y a une harmonie complète. Malheureusement, c'est possible de servir, par exemple, puis de servir seulement dans mon talent naturel, parce que je suis serviable. Donc oui, j'avais ça même avant de connaître Jésus. Et je suis encore serviable une fois que je suis venu à Jésus. Mais si l'Esprit de Dieu bouge en moi et m'a équipé, et que là je laisse l'Esprit de Dieu travailler à travers moi, ça veut dire que même ce talent-là peut aussi être joint avec le don de service, et là, ça serait fantastique à ce moment-là. Voyez? Alors, est-ce qu'un don, ça c'est la question numéro 2, et j'enchaîne parce qu'elle ressemble un petit peu à la question numéro 1, mais est-ce qu'un don spirituel pourrait être complètement différent d'un talent naturel? Alors, la réponse c'est oui, et la réponse c'est aussi, ça pourrait aller dans le même sens, comme je viens de le dire, l'esprit de serviabilité versus le don de service. Alors, quelqu'un peut avoir déjà cet esprit de serviabilité-là, ça faisait partie de sa personnalité, de ce qui était lui. Mais aussi en venant à Jésus, là, le Seigneur lui a donné le don de service. Ou ça peut être aussi totalement d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a des dons, comme par exemple l'esprit de service versus le don de service, qui, à première vue, se ressemblent beaucoup, là. Tu sais, tu regardes ça, tu ne peux pas faire la différence. Là, c'est-tu le don spirituel qui s'exprime ou c'est le talent? Ah, telle est la question. C'est même pas important. Du moins, c'est pas important comme je viens de l'exprimer v'là pas longtemps. OK? Dans le sens que si mon désir, c'est de servir le Seigneur et que lui soit honoré, donc je veux vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui agisse en moi et qui m'emmène à servir et que je le fasse pas dans l'œuvre de la chair. Comme chacun de nous qui sommes, mettons, dans l'œuvre ou chacun de vous qui avez un ministère, on veut pas le faire dans les forces humaines. Moi, je peux parler en public avec mes forces humaines. La seule chose que je peux dire, c'est ceci. C'est qu'avant de connaître le Seigneur, je n'étais pas un orateur. Je n'allais pas en devant de classe là, pour faire des présentations. Et même quand je suis devenu au Seigneur au début, puis que là, j'ai commencé à être formé, et là, qu'il demandait des volontaires pour aller parler, pour aller faire un message de 15 minutes, j'étais pas le premier à lever la main pour dire « Oui, oui, moi, je veux y aller parce que je l'ai l'affaire. » Fait que j'ai su très tôt qu'il fallait que je dépende de Dieu. Mais je sais aussi qu'après plusieurs années de vie chrétienne et de pratique, que je pourrais parler aussi dans mes propres forces. J'en suis conscient. Et je ne veux pas ça. Je veux vraiment que ce soit le Seigneur qui s'exprime à travers moi. Parce que si c'est le Seigneur qui s'exprime à travers moi, vous allez être bénis. Si c'est moi qui parle, ben vous allez peut-être trouver ça intéressant ou pas. Hein? Mais une chose est certaine, c'est pas ce que Jésus voulait communiquer qui va être exprimé, parce que je suis en train de le faire dans mes propres forces. Et chacun de nous, c'est le désir qu'on devrait avoir, c'est de le faire dans la force du Seigneur, et en plus, selon les dons qu'il m'a donnés. Alors, la différence entre, je dirais, un don spirituel et un talent, lorsqu'ils se ressemblent, parce qu'il y a des dons spirituels comme le don des miracles, le don des guérisons, le don des langues, d'interprétation des langues, par exemple, qui sont nommés dans 1 Corinthiens 12, c'est sûr que c'est plus évident, là, hein, de dire, « Ah, moi, j'ai un talent naturel de guérisseur. » Il y en a, hein, il y en a des... Moi, j'en ai eu dans ma famille, ils guérissaient des maux de dents, là, ou des nez qui saignaient. Fait que là, on appelait mon oncle, on appelait ma... voisin ou peu importe, et puis là, on lui disait, là, il y en a un qui saigne du nez, il y en a un qui a mal aux dents, fait que tata pense à lui, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, là. Et puis, des fois, ça marchait. Fait qu'il y avait le don de guérisseur, un don naturel de guérisseur, ou en tout cas, ils disent même que c'est un don, mais on comprend que ce n'est pas un don spirituel. Et là, on regarde ça, puis on regarde le Nouveau Testament, puis là, c'est pas la même affaire pantoute. Fait que donc, la distinction, dans le fond, entre les dons spirituels et les talents naturels, c'est au niveau de leur origine, au niveau de leur motivation, puis au niveau de leur qualité. Ils n'ont pas la même essence, autrement dit. Un talent, puis un don, un vrai don spirituel, puis un talent naturel, c'est pas pareil. Et au niveau de l'origine, par exemple, ben c'est sûr, le don vient de l'Esprit de Dieu à travers la nouvelle naissance, tandis que le talent vient de la nature humaine à travers la naissance humaine. La motivation, ben celui qui a le don s'exprime gratuitement pour le bien des autres et gracieusement pour la gloire de Dieu. C'est ça sa motivation du don spirituel. Tandis que le talent va s'exprimer plutôt sélectivement et pour son propre bien, et plutôt prioritairement et pour sa propre gloire. Ça serait plus la motivation d'un talent naturel. Troisièmement, leur qualité. Alors, le don s'exerce d'une manière qui est sacrificielle, qui est joyeuse et qui est avec une résilience hors du commun. Tandis que le talent va s'exercer plutôt d'une manière intéressée, selon l'humeur du moment, ou avec une certaine limite ou une limite certaine. OK? Autrement dit, la chair, parce que le talent naturel va s'exprimer, si on prend pas l'aspect qu'il peut s'exprimer à travers un don spirituel, là, mais en temps normal, alors un talent en soi, c'est à travers les forces humaines qui va se manifester. Et donc là, il y a toutes ces limites-là que je viens de dire. Tandis qu'un don spirituel, ben là, il vient de l'Esprit. Et là, voici, c'est complètement différent comme sphère d'exercice. Troisièmement, peut-on avoir 2, 3, 4, 5 dons? Autrement dit, est-ce qu'on a juste un don ou on a plusieurs? Ou n'est-ce pas normal qu'étant rempli de l'Esprit, le chrétien fasse plein de choses pour le Seigneur? Donc, il y a deux volets à la question. Est-ce possible d'avoir plusieurs dons? Puis la réponse, c'est comme je disais tantôt, oui, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs dons. Par exemple, si on prend l'exemple de Paul, lui-même, il avait le don d'apôtre, d'évangéliste, il avait le don d'enseigner, il avait le don de gouverner, il avait le don de faire des miracles, il avait le don des guérisons, puis encore. Alors, Paul était bien équipé. On voit aussi son souhait à l'égard des autres chrétiens, comme il est exprimé dans 1 Corinthiens 14, 12, où il dit « J'aimerais ça que vous parliez tous, ou que vous en langue, que vous prophétisiez tous. » Alors, on voit que effectivement, c'est pas une limite d'avoir un seul don. Et aussi, son invitation à rechercher les meilleurs dons. 1 Corinthiens 12, 31 et 14, 1. Il n'aurait pas pu faire ça s'il aurait dit « Ben, vous en avez un, puis contentez-vous, là. » Restez avec ça, trouvez c'est lequel, puis restez avec ça. Donc, c'est effectivement possible d'avoir plus qu'un don. Maintenant, est-ce normal? Et là, je pense que la question, c'était plutôt celle-ci. Est-ce plus normal de croire qu'un chrétien rempli de l'Esprit fasse plein de choses pour le Seigneur? Autrement dit, la vraie question, c'est-tu combien de dons que j'ai ou le fait de simplement servir le Seigneur? Parce que là, je suis rempli de l'Esprit. Et là, ma réponse, c'est absolument oui. Il est tout à fait normal, ou même plus normal de croire qu'un chrétien qui est rempli de l'Esprit fasse plein de choses pour le Seigneur. Et ça, peu importe le nombre de dons qu'il pourrait avoir. Et que c'est pas non plus limitatif au nombre de dons que j'ai que de faire plein de choses pour le Seigneur. Et même, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire, un chrétien rempli de l'Esprit ne pourrait pas faire autrement que de faire des choses pour le Seigneur et plein de choses pour le Seigneur. Mais les bonnes choses pour le Seigneur, en plus, il fera pas juste des choses, mais il va faire celles que Dieu a pour lui. Celles qui sont emmenées par le cœur de Dieu à travers le Saint-Esprit et les dons spirituels qui s'expriment pour le service et pour l'édification et ainsi de suite. Alors, voici ce que dit les Écritures sur quelqu'un qui est rempli de l'Esprit et montrer à quel point, effectivement, là, tout ça, c'est fondamental. Galates 5, 22-23 dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et voilà. Donc, ici, il va porter le fruit de l'Esprit. Et là, il y en a du paquet ici, là, hein? Que le fruit de l'Esprit va emmener dans la vie d'une personne, où là, il va bénir les autres d'une façon extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui va sortir de son cœur? C'est tout ce que je viens de dire qui est le fruit de l'Esprit et qui est extraordinaire. Puis là, il dit la loi n'est pas contre ces choses-là. Au contraire, c'est exactement ce que Dieu veut. Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et là, il va faire les œuvres de l'Esprit, celles que Dieu a préparées d'avance. Et donc, c'est fantastique. Troisièmement, il va partager sa foi autour de lui. Il va parler avec une assurance déconcertante de la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus. Actes 4, 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, en parlant de la première église, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ils ne pouvaient pas se taire, comprenez? Donc, même des gens timides, tout à coup, commençaient à parler, avaient du courage pour le faire. Puis là, aller vers les autres. Puis en plus, avec le fait qu'ils étaient plusieurs ensemble comme ça, qui partageaient la même foi, la même relation avec Jésus. Et là, le Saint-Esprit qui s'est manifesté d'une façon extraordinaire. Et là, tout à coup, tout le monde commençait à parler de sa foi et à témoigner de l'amour de Jésus, de la grandeur de Jésus. Alors oui, ça va emmener beaucoup de choses. Ici, il n'y a pas de mention de dons spirituels, vous voyez. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Quatrièmement, il va être animé par une disposition de cœur qui va lui permettre d'être détaché des biens matériels tout en étant attaché au Seigneur Jésus et aux réalités spirituelles. Acte 4, 32, juste le verset suivant dans Acte 4. « La multitude de ceux qui avaient cru et avaient été remplis du Saint-Esprit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Donc, ici encore là, vous voyez, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Il est en train de détacher des cœurs, des choses importantes de la vie, plein de préoccupations, mais tout à coup, c'est comme, c'est plus aussi important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe, ce que Dieu est en train de faire. Et là, je vois les besoins autour de moi, et là, je veux participer à ces besoins-là. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de pression, il n'y a pas un programme qui a été mis en place. Le Saint-Esprit est en train de se manifester dans les cœurs de ceux qui étaient là et qui avaient connu Jésus, qui avait été rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est tout aussi simple que ça. Et là, maintenant, si ça, c'était pas assez, OK? Mais là, la présence de l'Esprit, le fait d'être rempli de l'Esprit dans nos vies va se manifester d'une façon extraordinaire. Jean 14, 12. Jésus dit ceci, « en vérité, comme si ce n'était pas suffisant. » Donc, vraiment, là, vraiment, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi, Jésus, je fais, et il en fera de... Ça, c'est assez exceptionnel, parce que je m'en vais vers le Père. C'est même dur à croire. Mais non, voyons donc comment ça, Jésus, là, tu dis que... C'est impossible, là, franchement. T'as ressuscité des morts. T'as guéri des gens qui n'avaient jamais marché de leur vie. Des gens qui étaient nés, là, aveugles. Ça n'avait jamais marché, l'œil, là. C'est pas une restauration, là. C'est pas un effet placebo. Non, il est aveugle de naissance. Tu dis qu'on va faire des œuvres plus grandes que ça. Wow! Et là, il parlait de quoi? Il parlait de la venue du Saint-Esprit. Il parlait de ce que l'Esprit serait en mesure de faire à travers ceux qui allaient le suivre, qui allaient croire en lui, qui allaient recevoir le Saint-Esprit dans leur vie et être remplis de l'Esprit. Wow! Alors, les dons spirituels, est-ce que c'est ce qui est le plus important? Non. C'est l'Esprit. C'est d'être rempli de l'Esprit. Tu sais, dans le fond, je ne dois pas me préoccuper autant c'est quoi mon don, puis comment don que j'ai, puis est-ce que j'ai en train d'utiliser à bonne place. La vraie préoccupation, c'est, Seigneur, est-ce que je suis rempli de l'Esprit? Parce que si je suis rempli de l'Esprit, le reste, là, j'ai plus besoin de poser bien des questions puis de me tracasser. Puis je suis pas en train de dire que les dons spirituels, c'est pas important. Paul a consacré au moins 3 chapitres, puis dans Romains 12, il en parle encore. Après ça, on a dans 1 Pierre qui des mentions encore sur les dons spirituels. Mais autrement dit, ça, c'est comme une manifestation de la grâce de Dieu. C'est des cadeaux de Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est justement d'être rempli de l'Esprit. Parce qu'à partir de là, bien, wow! Fantastique. Quatrième question. Est-ce qu'un don peut bouger ou changer au cours des années d'une vie chrétienne? Bien, la réponse, on la trouve par exemple au verset 11, chapitre 12, où Paul nous dit que l'Esprit de Dieu est souverain dans la distribution et la restriction de certains dons. Donc, si c'est l'Esprit qui est souverain, si c'est l'Esprit qui décide, si c'est l'Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, dans le sens que lui, il sait exactement qu'est-ce que chaque Église a besoin pour fonctionner, pour l'utilité commune, pour marcher ensemble, pour être en train d'exprimer la grâce et l'amour les uns envers les autres et tout ça. Alors, pour l'esprit de corps et les soins et tout ça, alors c'est sûr que, absolument, des dons peuvent changer ou bouger. Pourquoi pas? Même si aussi... Paul nous dit qu'on peut aspirer à en posséder plusieurs, surtout ceux qui sont les meilleurs. Chapitre 12, verset 31, chapitre 14, verset 1, verset 5, verset 12. Donc, il n'y a pas de contradiction. Deuxièmement, un don peut certainement s'estomper ou s'atrophier lorsqu'il est négligé ou peu utilisé. On a, par exemple, 1 Timothée 4:14, où Paul dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Donc, effectivement, un don peut bouger dans ce sens-là où il serait négligé, pas utilisé ou mal utilisé. Troisièmement, il peut aussi maturer et se développer avec le temps et la pratique. 1 Timothée 4, 13 et 15, qui est dans le même contexte que je viens de lire pour le fait de négliger un don, Paul dit aussi à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. » À quoi? À la lecture, à l'exhortation, qui est aussi un don, à l'enseignement, qui est aussi un don. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soit évident pour tous. » Autrement dit, Timothée, sois diligent avec qu'est-ce que Dieu t'a confié. Ne néglige pas le don qui est en toi, mais au contraire, fais-le fructifier. Cherche à le développer et à laisser Dieu s'exprimer de telle manière que même ceux qui t'entendent, même ceux qui bénéficient de ton ministère vont dire, « Wow, tu sais, t'as grandi. » C'est vraiment le fun. Puis des fois, il y en a qui le font gentiment, qu'on a grandi, puis des fois, il y en a qui le font maladroitement. Voulez-vous un exemple? Un jour, quelqu'un me dit, en venant vers moi, sachant que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie qui semblait être assez évident, il a dit ceci: « Toi, avant, je t'haïssais à la face. » Et là, je lui ai dit ceci: « Tu as prié pour moi? » « Oui. » « Je te remercie beaucoup d'avoir prié pour moi. » La prière est efficace, hein? Gloire à Dieu. Alors, elle avait vu un progrès en moi. Fantastique, c'est le bon côté de la chose. Un petit peu maladroit pour me le dire. Mais comme ma femme dit des fois, il est capable d'en prendre. Alors oui, un don peut bouger ou changer. Il peut bouger ou changer positivement, comme il peut bouger ou changer, malheureusement, d'une façon, on pourrait dire, négative, dans le sens qu'il se détériore. Cinquième question. Que fait-on si on pense que l'on n'a pas de don? La réponse? Se réjouir par la foi de la vérité de l'Écriture qui dit que tout croyant né de nouveau a reçu par l'Esprit un don spirituel. Donc, c'est pas parce que je le pense, parce que je sais pas c'est lequel, que c'est dramatique. Non. Puis comme on a dit tantôt, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être rempli de l'Esprit. Alors, ça, c'est, on le voit au chapitre 12, verset 7, dans 1 Corinthiens, au verset 11 et 13 aussi du chapitre 12. « Par conséquent, lorsque je suis né de Dieu, l'Esprit m'a donné un don à moi aussi, même si j'en ai aucune idée précise de ce que c'est le don. » Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est servir le Seigneur avec une simplicité de cœur, comme je disais tantôt, en étant rempli de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. « Car le Seigneur, c'est aussi l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est la vraie liberté. » Et ça, c'est la chose la plus importante, de savoir que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Troisièmement, c'est de prendre du temps dans la prière. Si vraiment c'est une question qui me préoccupe, que j'aimerais savoir, « Seigneur, j'aimerais savoir c'est quoi mon don, tout ça. » Alors, on peut aller dans la prière auprès de Jésus. Et juste un exemple de prière, par exemple, que vous pourriez faire. Je sais que c'est enregistré, donc même si vous ne l'écrivez pas, si vous voulez l'avoir, elle va être disponible sur le site Internet. Par exemple, « Jésus, toi, l'Esprit et le Père, vous êtes un. » Comprends-tu d'où vient cette difficulté que j'ai à savoir ou à croire que je puisse avoir un don quelconque? Pourrais-tu confirmer dans mon cœur la vérité de ta parole qui dit que ton esprit m'a attribué un don spirituel? Puis l'on attend la réponse du Seigneur. Jésus est vivant, hein? On peut comme ça lui poser des questions dans la prière. Veux-tu que je découvre lequel? Quel don que j'ai? Peux-tu me le révéler en ce moment même ou préfères-tu te le faire plus tard? Que veux-tu que je fasse en attendant de le découvrir? Puis-je te remercier du fond du cœur de m'aimer autant et de m'avoir donné des talents naturels et des capacités spirituelles pour que je puisse mieux te servir et aimer mes frères et sœurs dans la foi? » Allez, et on laisse ça entre les mains du Seigneur. Une autre chose qu'on peut faire si on est intéressé à découvrir c'est quoi que Dieu nous a donné comme don, c'est de demander à un chrétien en qui on a confiance et qui a une bonne connaissance de cette question des dons spirituels, de nous aider à réfléchir et à découvrir le ou les dons que Dieu nous a donnés par son Saint-Esprit. Et il y a même ici à l'église de Trois-Rivières, on a un petit dépliant avec toute la liste des dons spirituels et questionnaire et tout ça, des choses à cocher qu'on utilise dans le cadre de ceux qui veulent devenir membres à l'Église justement pour réfléchir sur cette question-là. Et donc, ça, c'est aussi un outil qui est disponible. Cinquièmement, ne pas oublier cette vérité importante. Aux yeux de Dieu, les plus faibles, les plus vulnérables et les moins importants sont souvent les plus forts. 2 Corinthiens 2:10. Les mieux entourés, protégés, Matthieu 18:10, et les moins orgueilleux, donc les plus considérés par Jésus lui-même. Jacques 4:6 et 10. Parce qu'on a vu que dans le contexte des Corinthiens, malheureusement, les dons spirituels avaient plutôt emmené l'Église dans une mauvaise direction, et il y avait beaucoup d'orgueil, beaucoup d'humanité à travers ça. Il y avait des dons vedettes, et donc ceux qui avaient ces dons vedettes-là étaient des spirituels, et les dons n'ont jamais été donnés pour démontrer la spiritualité de quelqu'un, ni le baptême de l'Esprit, ni le parler en langue. Ce n'est pas du tout un signe de spiritualité. Alors, ça, ce n'est pas l'enseignement des Écritures. Est-ce qu'on parle du don, un don de l'Esprit ou des dons de l'Esprit? Ça, c'est assez simple à répondre, dans le sens que l'Écriture fait référence au don de l'Esprit singulier, lorsque le mot « don » associé à l'Esprit est au singulier. Alors, ça parle du don initial de l'Esprit qui fait de nous un enfant de Dieu. Donc, ça, c'est le don de l'Esprit. C'est pour ça qu'on est né d'en haut, on est né de Dieu, parce qu'on reçoit le don de l'Esprit. On est scellé par le Saint-Esprit. Acte 2:38 et Acte 10:45. Et c'est aussi le même don de l'Esprit au moment de la conversion qui nous baptise en Christ, ou c'est-à-dire nous incorpore dans le corps, l'organisme vivant. Pas l'Église dans le sens comme ça, mais de l'Église universelle de Jésus, le corps de Christ. Donc, l'Esprit vient nous incorporer à Christ et on fait partie de Christ. On est un avec Christ et avec nos frères et sœurs dans la foi. 1 Corinthiens 12, 13. Donc ça, c'est le don de l'Esprit. Par contre, l'Écriture fait référence au don de l'Esprit pluriel pour désigner les dons spirituels que l'Esprit distribue souverainement à tous les membres du corps et aux leaders qui servent le Seigneur dans son œuvre. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, 11 et 12 et 1 Timothée 4, 14. Alors voilà pour cette question. Il en reste deux. 7. Y a-t-il des dons qui existaient au temps de Paul et qui n'existent plus aujourd'hui? Et B, y a-t-il des dons qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas dans les débuts de l'Église? Malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à cette question ce matin. Non, j'y réponds, voilà. Elle est un peu plus difficile à répondre, celle-là, OK? Plus délicate, je dirais. Pas difficile, mais délicate à répondre. Oui, il semble évident que certains dons ont disparu, étant donné leur absence d'utilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la raison d'être d'un don, c'est pour l'utilité commune, par exemple, et l'unité, et puis aussi cet environnement de soins et de grâce et tout ça là, dans l'Église. Alors, 1 Corinthiens 14, 26 à 28. Ou encore leur moins grande nécessité, du moins dans leur expression originale ou au niveau de leur grande amplitude telle que vue dans le Nouveau Testament et au début de l'Église. Ça, c'est ma conclusion à moi. Et je suis pas le seul, mais c'est ma compréhension présentement. Exemple. Les miracles et les guérisons, dont le but principal était d'attester le témoignage des premiers disciples et des apôtres, Marc 16, 20, Hébreux 2, 4, me semble être disparu. Ce qu'on entend aujourd'hui de ceux qui ont le don des guérisons, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne fait pas de miracles et ne fait pas de guérisons, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais le don des miracles, le don des guérisons, tel qu'il s'est exprimé à travers les apôtres, par exemple, Paul et les autres, et ceux qui étaient associés de près aussi aux apôtres, Benny Hinn, vous êtes venu à Montréal, j'ai entendu, c'est pas ça. Il n'a pas l'affaire. Et si vous aviez l'intention d'aller le voir, moi, je vous inviterais à réfléchir à cette question-là, demander à Jésus qu'est-ce qu'il en pense. Parce que ce qu'il fait, son ministère, tout ça, c'est loin d'être ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ça. Les langues intelligibles, c'est-à-dire articuler des langues connues, parler, et l'interprétation des langues dont le but principal était d'être un signe de rétribution. Dieu changeait son focus, qui était sur une seule nation, pour le mettre maintenant sur toutes les nations, ce qui était le signal que on voit dans le livre des Actes, entre autres, de l'utilisation des langues. Et de parler par des langues étrangères au peuple juif devenu incrédule et rebelle. Donc, là, on le voit dans 1 Corinthiens 14, 21 à 22. Donc, ces langues-là, moi, personnellement, je ne dis pas que, à quelque part, que Dieu pourrait pas l'utiliser encore. En tout cas, dans le texte biblique, c'est difficile de dire que c'est impossible. Mais ce qui se passe présentement, c'est pas du tout de la même catégorie. C'est pas ça qui se passe présentement dans la plupart des églises qui utilisent le don des langues. Alors pour moi personnellement, je ne crois pas que ce don-là est utile à l'église, qu'il joue un rôle utile, qu'il sert l'église. Je crois plutôt que ça crée de la confusion, que ça crée même cette espèce de catégorisation, ceux qui l'ont puis ceux qui l'ont pas, ceux qui sont baptisés, ceux qui ne sont pas, puis ainsi de suite. Et je pense que c'est exactement ça que Paul voulait éviter. Alors, pour moi, là-dessus, c'est comme... Toutefois, pour ajouter à tout ça, il est certain que tous les dons sont appelés à disparaître un jour. Donc, pas juste ceux que j'ai nommés. Au moment où ce qui est parfait, nous dit Paul, va justement prendre préséance sur ce qui est imparfait, temporaire ou partiel, 1 Corinthiens 13, 10. Et ce qui est parfait, ce n'est pas la rédaction du Nouveau Testament. Certains pensent que c'était ça, mais je dirais la grande majorité s'entendent aujourd'hui pour dire que ce qui est parfait, c'est quand on va être dans la présence de Dieu, où là, on va connaître parfaitement. On n'aura plus besoin de connaissance. On n'aura plus besoin d'aucun don spirituel, si ce n'est, dans l'éternité, l'amour que Paul nous dit, 1 Corinthiens 13, qui ça, c'est la valeur sûre. Elle va toujours demeurer. Même dans l'éternité, il va y avoir encore plein d'amour. Et là, il n'y aura pas aucun obstacle à ça, à cet amour-là. Mais tous les autres dons vont disparaître, un jour ou l'autre. Certains semblent déjà avoir disparu, et même dans l'histoire de l'Église, comme celui des langues, par exemple, et tout ça, semble avoir disparu. Il est réapparu. Mais en même temps, comme je vous dis, pour moi, c'est pas convaincant du tout là, ce qui est fait présentement. B, oui, il est fort possible que d'autres dons existent aujourd'hui, tout comme il est fort possible que d'autres dons aient existé au temps du Nouveau Testament et qui ne sont tout simplement pas mentionnés dans aucun livre du Nouveau Testament. Autrement dit, le but, c'était pas de faire le répertoire complet de tous les dons spirituels et d'en avoir une idée juste et tout ça, puis que là, on a le whole package, là. On a tout ce qu'il faut, là. Alors, oui, c'est possible que même Dieu, pour l'utilité, comme je disais tantôt, autrement dit, pour équiper son peuple, pour permettre à faire l'œuvre du ministère, à prendre soin les uns des autres, à créer l'unité, que d'autres dons soient manifestés. Et il est souverain, donc il est Dieu et il est sans limite. Et c'est pour ça que si les dons spirituels ne sont pas la préoccupation principale, mais d'être rempli de l'Esprit, ces choses-là, jusqu'à un certain point, ça demeure des questions vraiment secondaires. Voilà. La huitième question. Que fait-on avec les dons que certaines églises mettent de l'avant, le parler en langue, entre autres? Que doit être notre attitude? Il faut être clair puis sévère. Il faut reprendre puis aller aux portes de ces églises avec des pancartes et aviser toute personne de la vérité que nous tenons et que nous chérissons. Bon, c'est-tu enregistré? Okay. Non. On a le droit d'avoir nos convictions et on espère que nos convictions reflètent la pensée de Dieu. mais ça serait dangereux d'avoir une attitude arrogante. Ce que Paul veut éviter lorsqu'il parle aux Corinthiens, parce que ça existait, cette arrogance-là, chez certains Corinthiens. Alors, il ne faut vraiment pas aller dans cette perspective-là. Je dirais ceci pour répondre d'une façon beaucoup plus réelle. Tout comme il y a une diversité de dons, de services et d'opérations de l'Esprit, nous dit Paul, 1 Corinthiens 12, 4 à 7, et que l'exhortation de Paul est d'aspirer aux dons les meilleurs, il ne faut pas oublier ça, chapitre 12, verset 31, et par-dessus tout, à suivre la voie par excellence, qui est l'amour, chapitre 13, verset 13, il nous faut donc aussi, nous, aujourd'hui, un, reconnaître qu'il y a une diversité de saveurs, de couleurs et de cultures dans le monde évangélique. Nous devons donc ici aussi aspirer à ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire de plus édifiant, de plus unissant et de plus aidant. C'est ça qu'on doit rechercher. Tout en suivant par-dessus tout cette voie par excellence qui est l'amour comme guide dans toutes nos décisions et interactions avec ces questions-là et nos frères et sœurs. Deuxièmement, il faut apprendre à accueillir, respecter, aimer et bénir tous ceux qui sont nos frères et sœurs dans la foi en Christ, sans distinction de saveur, de couleur, de culture ou de famille d'Église. Moi, je pense que ça reflète 1 Corinthiens 13 et Romains 14. Et à nous de chercher à suivre le Seigneur dans cette voie-là. Troisièmement, il nous faut demeurer dans une attitude d'humilité face à notre compréhension de tout le conseil de Dieu qui nous est donné dans Actes 20, 27, ou de la saine doctrine que Paul parle dans Tite 1, 9, ou de ce qui touche à la foi et la vérité dans 1 Timothée 2, 7. Nous sommes avant tout des disciples de Jésus-Christ. Il est notre Dieu, notre chef, notre maître, notre grand berger. Il aime et chérit chacune de ses brebis, peu importe sa saveur, sa couleur ou sa culture. Il est profondément attristé et même choqué de toute attitude de mépris, de préjugé ou de dureté à l'égard de n'importe quel de ses enfants. Ou comme il a dit lui-même, un de ses petits qui croit en moi. Matthieu 18, 6. Faut pas oublier ça. Quatrièmement, il faut continuer de croire, de croître à tous égards dans la vérité, afin de demeurer fermement attaché au Seigneur et de ne pas être entraîné par la tromperie de certains hommes ou par l'attrait d'expériences qui n'ont rien à voir avec le véritable évangile ou la saine doctrine. Éphésiens 4, 11 et 16. La parole de Dieu doit toujours être notre guide principal pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 12. Que Dieu le Père, par l'assistance de son Esprit et l'union de son Fils, puisse remplir nos cœurs de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, nous rendant ainsi capables de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et en croissant dans la connaissance de Dieu, devenant puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que nous soyons toujours persévérants et patients. Ça, c'était la prière de Paul. Colossiens 1, 9 à 11. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur, nous approchons de toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que ta parole est là pour nous diriger, pour nous enseigner, pour nous conduire. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander ce matin de nous garder autour de ta personne, de nous remplir de ton Saint-Esprit et de nous permettre, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Non seulement nous en tant qu'Église ici, mais aussi nos frères et sœurs en Mauricie, ceux avec lesquels nous sommes de plus près pour des raisons similitudes de convictions ou même ceux avec lesquels nous avons des divergences, parfois même peut-être profondes, sur certains sujets. Seigneur, aide-nous à reconnaître que ceux qui confessent ton nom d'un cœur pur, qui ont placé leur foi en toi pour leur salut et qui t'aiment et cherchent à faire ta volonté, sont nos frères et sœurs dans la foi. Permets à nos cœurs de les accueillir, de les aimer, comme on te demande de permettre à nos cœurs d'accueillir tous nos frères et sœurs pour les aimer et les servir selon la direction de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à garder les yeux fixés sur toi et que les dons spirituels ne soient pas un sujet de discorde parmi nous, ou même un sujet de divergence ou de distraction, et encore pire, un sujet de se mépriser les uns les autres ou de se regarder les uns les autres en se comparant les uns aux autres. Seigneur, le plus important, n'est-ce pas, de te connaître, de te suivre, de t'aimer et de permettre aux autres de venir à toi, de te rencontrer. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous à ta suite et permets à nos cœurs de grandir et de vivre pour toi. Merci, Seigneur Jésus, d'être là et que toute la gloire te revienne. En ton nom, Jésus. Amen.